Les Rituels saison 4, la suite.
J'écris pour vivre, j'écris pour déconstruire, j'écris pour décloisonner, j'écris pour me libérer, j'écris pour me réinventer aussi.
À 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre ou dans un cahier, devant un café froid ou sur un clavier, comment écrivent-elles? Comment écrivent-ils? Avec Les Rituels, un podcast créé pour Cinévox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles reviennent sur la place que l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien. Dans mon processus, il y a beaucoup de liberté. Je n'essaie pas de cadrer mon écriture, de lui imposer une manière de faire, d'écrire ou de penser. La liberté revient sans cesse dans le discours de Rosine Bakam. Née au Cameroun, où elle suit une formation en audiovisuel avant de travailler à la télévision comme reporter et réalisatrice, elle poursuit des études de cinéma à l'INSAS à Bruxelles, dont elle sort diplômée en 2012. Son premier long-métrage documentaire, Les deux visages d'une femme bamileke, sort en 2016. Suivent Chez Jolie Coiffure, puis Les prières de Delphine, avant qu'elle ne présente en 2023 Mambar Pierrette, fiction hybride nourrie de sa démarche documentaire sélectionnée à la quinzaine des cinéastes de Cannes. Avec Rosine Bakam, on a parlé de liberté donc, mais aussi d'héritage et de déconstruction, d'autocensure et d'inspiration. Bonjour Rosine.
Bonjour.
Alors j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous écrivez en ce moment?
Est-ce que j'écris? J'écris un peu tout le temps. J'écris des notes, des idées qui me viennent. J'écris des phrases, des mots qui me percutent. L'esprit, le cœur, mes sens. Oui, j'écris un peu tout le temps, mais de manière variée, parce que c'est pas tout le temps des histoires, c'est des émotions, c'est des réflexes, c'est parfois ma relation aux choses, aux mots, aux histoires, aux gestes, ça dépend.
Il y a peut-être une pratique de l'écriture qui est plus intime, de l'ordre de coucher sa pensée sur le papier, et puis une pratique qui, j'imagine, est tournée directement vers vos films. Comment est-ce que les deux se rencontrent ou s'articulent?
C'est généralement lié. Quand j'écris un film, ça commence par un mot, une sensation, une émotion en moi, ou des questions. Je rumine un peu tout ça. Ça se met en forme autour d'une histoire, autour d'un texte. Pour moi, les deux sont souvent liés parce que je ne sais pas comment ça va évoluer. Quand un mot percute ma pensée ou mon corps, je ne sais pas comment ce mot-là va évoluer. Peut-être ça évoluera autour d'un texte que j'ai envie de dire ou autour d'un film, parce que ce mot-là peut également engendrer des questions en moi et qui se transforment en une histoire. Et voilà, mais j'arrive pas à dissocier les deux. Comme je fonctionne de manière libre, hein, et j'essaye aussi de déconstruire des manières de faire ou de penser le cinéma, j'essaie de lier ça très fortement à comment je suis moi, comment je pense ou comment je souhaite penser. Et du coup, c'est difficilement pour moi descriptible parce que ça dépend. Un projet n'est pas un autre, et la manière dont, par exemple, j'ai écrit Mambar Pierrette n'est pas la même manière d'aborder Chez Jolie Coiffure, où c'était vraiment des expériences d'écriture différentes. Par exemple, tous ces documentaires-là, j'ai d'abord fait avant d'écrire. Donc, j'étais dans l'acte de faire. Le documentaire que j'ai, par exemple, écrit, c'était mon premier documentaire, Les deux visages d'une femme bamileke. Donc, c'était une émotion de nostalgie qui m'a poussée à l'écriture de ce documentaire-là. Et Mambar Pierrette, c'était une... J'étais à un moment où je me sentais forte dans mon affirmation parce qu'il y avait un travail de déconstruction qui s'était fait. Je sentais ma pensée libre, mon regard libre, et j'avais envie d'exprimer cette liberté, cette force que j'avais gagnée après une dizaine d'années de déconstruction et de recherche de mon regard. Donc du coup, il est difficile pour moi de vraiment décrire un processus parce que c'est... Je dirais, dans mon processus, il y a beaucoup de liberté et j'essaye pas de cadrer mon écriture à une manière de faire, à une manière d'écrire et de penser. Donc du coup, dans cette liberté-là, les deux se rencontrent, les deux évoluent souvent ensemble.
Alors avant de nous pencher sur la façon dont votre écriture se déploie dans cette liberté, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit, ou en tout cas de la première fois où vous avez commencé à vous raconter ou à raconter aux autres des histoires?
Oh, la première fois que j'ai commencé à me raconter des histoires, je me rappelle, c'était avec une copine et j'avais remarqué qu'elle était... Parce que je pensais des histoires toute seule et comme je les pensais toute seule, je me prenais un peu pour une personne qui se parlait, donc une personne qui n'était pas normale parce que dans mon entourage, je voyais pas ça. Parfois, je me parlais toute seule. Et du coup, j'ai rencontré cette copine de mon quartier. Je sentais qu'il y avait cet imaginaire débordant en elle aussi. Et du coup, on se retrouvait, on se racontait mais des histoires folles de notre quotidien. On avait, je pense, 9-10 ans. Et puis, cette imagination s'est formatée avec la rencontre de la télé. À la télé, je voyais des telenovelas brésiliennes et des séries américaines. Je voyais que dans mon imaginaire, je reprenais des répliques que je transformais. Et ça s'est libéré beaucoup plus tard parce que j'ai rencontré encore au lycée une copine à moi, Awa, qui était également dans cette liberté-là. Et à ce moment, je me suis encore libérée, détachée de tout ce qu'on voyait. Et avec Awa, on bravait les interdits de notre quotidien, mais dans notre imaginaire. On s'inventait non, mais amoureuse. On allait au-delà des limites de nos traditions, de notre réalité. Et quand j'ai commencé à écrire très tôt et encore très, très formaté. J'écoutais beaucoup de variétés françaises. J'aimais bien la poésie, j'aimais bien les mots. Je me rappelle que quand j'aimais une chanson, j'avais envie d'écrire, pas les mêmes mots, ça me donnait envie d'écrire moi aussi et j'ai commencé à écrire à ce moment-là. J'ai commencé à écrire des petites phrases, des petits poèmes, c'était une écriture qui n'était pas liée à ce que j'étais, à ce que je vivais, c'était une écriture liée à ce que j'écoutais à ce moment-là et voilà.
Et comment s'opère la bascule entre l'écriture qui est un moyen peut-être de grandir ou de chercher une émancipation et puis une écriture qui devient une vocation et ce qu'on va faire de sa vie?
Comment ça a évolué? Parce que je ne considérais pas ça comme quelque chose qui était une vocation. C'était un amusement et pour moi, c'était vraiment dissocié parce que je ne venais pas d'une famille où culturellement ça parlait. Moi, ma mère, elle me disait toujours « t'es dans ta tête » comme quelque chose où il fallait que je revienne à la réalité, que je devais faire des choses, je devais faire mes travaux, je devais étudier. Et voilà, c'était pour moi quelque chose qui était de l'ordre d'une liberté cachée, d'un amusement, d'un plaisir qui n'avait pas toujours d'espace et que je gardais pour moi quand j'avais fait tout ce qu'on attendait de moi. Ah, je pouvais rentrer dans mon imaginaire, je pouvais m'amuser, je pouvais me libérer, je pouvais... Et du coup, ça a mis du temps. Après mon bac, j'avais envie de faire quelque chose dans l'ordre de la communication parce que je me disais que au moins dans la communication, j'allais exprimer ou écrire des choses qu'il y avait dans ma tête. Comme il fallait que je fasse un choix sur ce que j'avais envie de faire à l'université, comme études, mon père voulait que je fasse médecine, mais il était décédé, il n'était plus là. Et ma mère, elle ne comprenait pas tous ces enjeux-là. Elle m'a juste dit, voilà, il faut continuer. Moi, je vais continuer à te payer l'école. Et moi, je me suis dit, n'ayant plus la pression de mon père qui voulait que je sois médecin, je pouvais enfin choisir ce que je voulais faire, mais je ne savais pas concrètement parce que les désirs que j'avais en moi n'étaient pas les désirs qui étaient développés ou encouragés dans le cadre de l'école. Donc, je me rappelle, j'étais allée voir un Italien qui était dans un centre de santé où j'allais étudier tous les soirs parce que ce centre de santé avait un espace culturel où les enfants du quartier allaient parfois faire des activités et étudier. Et je me rappelle, je lui avais dit « Ah, j'ai envie de faire de la communication, mais je ne sais pas trop quel type de communication. » Alors il m'a dit, tu peux communiquer par les images et les sons, tu peux écrire, voilà, raconter des histoires, tu peux être journaliste, tu peux, voilà. Il m'a donné plusieurs possibilités de créer un lien entre mon imaginaire et mon présent. Et quand il m'a dit ça, il m'a aussi dit qu'il y avait un centre une cellule audiovisuelle qui se déplaçait et qui venait dans mon quartier et que je pouvais me former. Et c'est comme ça que je me suis formée. Et après, j'ai pu trouver le moyen de raconter tout ce qui se passait dans mon imaginaire, de pouvoir exprimer mes émotions par le cinéma. Le cinéma est arrivé là, le canal du cinéma est arrivé à ce moment-là.
Quand vous trouvez le moyen de déployer cet imaginaire-là à travers le cinéma, comment est-ce que vous organisez tout ça? Comment est-ce que vous vous autorisez à aller vers cette carrière-là? Comment ça se passe, vos débuts et les premières écritures qui en découlent?
Les débuts, j'ai pas le temps de questionner. Quand j'ai cet outil, je me rappelle mon premier projet, c'était avec les enfants de la rue à Yaoundé. J'avais envie de comprendre comment ces enfants qui avaient le même âge que moi se retrouvaient dans la rue. Et c'était des sujets qui me bouleversaient et me transformaient en même temps. Mais en même temps, j'avais pas des outils, des capacités de pouvoir gérer ce genre de sujet. Donc c'était parfois maladroit, parfois en reproduction de ce que je voyais. Parce que je ne savais pas encore, dans ce vaste domaine du cinéma, je ne savais pas encore où je souhaitais être, ce qui me correspondait. Est-ce que c'est la réalisation? Est-ce que c'est faire du son? Est-ce que c'est faire du montage? Est-ce que c'est juste écrire? Le choix n'était pas très clair pour moi parce que je n'avais pas complètement exploré tout ça. Et je pense que je faisais des tentatives qui n'aboutissaient pas parce qu'il n'y avait pas un choix ferme de ce que j'avais envie de faire. Je pense que je peux décrire cette période comme une période d'exploration parce que quand je me suis formée dans cette cellule audiovisuelle, 2 ans après, j'ai été engagée à STV, une télévision privée du Cameroun. Et là, c'était encore une autre liberté parce que j'avais la possibilité de tout explorer. J'ai fait de la prise de son, j'ai fait du montage, j'ai fait de la réalisation, j'ai fait de la production, j'ai fait de la programmation, j'ai fait de la présentation. Et là, j'étais sûre que je voulais faire de la réalisation. J'étais sûre que je voulais écrire mes histoires et les raconter à ce moment-là parce que j'avais exploré presque tout. Je savais avec certitude ce qui me plaisait. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait le choix de me former parce que je savais ce que j'avais envie de faire et que je n'avais pas complètement les outils pour le faire. Parce que tout ce que j'avais essayé de faire comme film au Cameroun, j'étais pas arrivée au bout de ces films. Et c'était des tentatives qui m'ont permis, en tout cas, de pouvoir clarifier mon choix et de faire le choix de raconter des histoires en tant que réalisatrice, oui.
On va revenir aujourd'hui à la place que l'écriture prend dans votre vie. Est-ce que vous écrivez souvent? Si je comprends bien, c'est une pratique plutôt quotidienne. Et quelle forme ça prend? À quel moment est-ce que vous écrivez? Et comment est-ce que vous aimez vous installer pour le faire?
Comment j'écris, je pense que chaque projet a sa manière de s'installer en moi et du coup de me donner un cadre aussi. Quand il me vient des émotions, par exemple des mots, c'est généralement le matin, très tôt, quand je prie, quand je médite, quand j'ai ces moments de spiritualité, de prière. Il y a des choses qui me viennent, que j'écris, que je note. Chez Jolie Coiffure et les prières de Delphine, je ne peux pas prendre ça comme des formes d'écriture parce que j'écrivais pour aller chercher de l'argent. C'était pas une écriture de création parce que la création, je l'avais déjà faite par l'acte de filmer. Donc je ne faisais que reproduire ce que j'avais déjà créé par l'image. Si je prends un exemple d'écriture, ce serait les deux visages d'une femme Bamileke. C'était pendant mon cursus scolaire à l'INSAS, donc c'était un moyen de me retrouver dans l'intimité de ce que j'avais été au Cameroun. Donc je me retrouvais à la Bibliothèque Royale au milieu de plein de gens et j'avais l'impression de me retrouver avec ma famille, je me retrouvais avec ce qui me manquait, je me retrouvais avec les lieux, les odeurs de la terre mouillée, des odeurs des repas, des gens, et surtout des voix. Donc cette écriture-là, je l'écrivais au milieu des cadres, en contradiction avec ce que j'étais, mais l'écriture me permettait de créer une bulle où je me retrouvais vers des lieux et des gens qui me manquaient. Mambar Pierrette, j'ai beaucoup écrit au Parlement européen. Je travaillais au Parlement européen comme assistante audiovisuelle et ça me nourrissait, mais en même temps, ça me permettait aussi de voir les rapports et les enjeux, les rapports de pouvoir existants. Donc, Mamba Pierrette, c'était un moyen de, comme je disais, un moyen où j'affirmais ma liberté par rapport à tout ce que je pouvais entendre de la politique européenne. Et c'était une affirmation, en tout cas, de d'où je venais, Mamba Pierrette, et comment je me positionnais par rapport à tout ça. Donc, j'écrivais une partie de l'histoire là, dans ces lieux. Et en même temps, j'ai beaucoup écrit aussi dans les trains, parce que à ce moment-là, je faisais aussi une tournée au sud-ouest de la France pour présenter mon film Les deux visages et Chez Jolie Coiffure. Je sens aussi que c'était des moments de fuite où j'étais immergée dans un contexte politique européen et des stratégies politiques européennes. Et pour moi, écrire Mamba Pierrette dans ces lieux-là, en ayant souvent comme vue ces députés qui discutaient, qui échangeaient, c'était une affirmation de mon identité, de d'où je viens, de ce que je suis et ce que j'avais envie de raconter, comment je me positionnais aussi face à cette politique européenne qui abordait souvent les conditions sociales de certains pays africains, et voilà. Donc, je peux encore dire que mon écriture suit un peu ma réalité, les contextes dans lesquels je suis, dans lesquels je me débat aussi, et comment je trouve ma place et comment mon imaginaire se nourrit, se confronte. En résumé, je dirais, c'est vraiment une écriture libre. Je ne m'assigne pas absolument une manière de faire ou une manière d'écrire ou un lieu où j'ai envie d'écrire. Par exemple, en ce moment, j'écris, mais je sens que j'ai pas trouvé la manière et le lieu où écrire tout ce que j'ai envie d'écrire maintenant. Je sens que je suis en recherche de ça, et quand je vais le trouver, les choses iront mieux. Je crois.
Donc l'écriture est à la fois une écriture en réaction, une écriture aussi qui libère et qui permet d'affirmer des choses. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui pour vous est très personnel, ou est-ce que à un moment donné c'est une écriture que vous avez envie de partager, ou est-ce que c'est quelque chose qui se passe uniquement sur le plateau? Comment est-ce que vous considérez l'écriture? Est-ce que c'est plutôt un sport individuel pour vous, ou quelque chose qui peut se vivre dans la collectivité?
Pendant les premiers temps, en tout cas quand je rumine quelque chose, c'est très très intime. Quand, en tout cas, mon idée n'est pas encore ferme en moi, ancrée et enracinée en moi, je peux pas partager. C'est comme l'enfantement. Quand on est enceinte et que c'est encore fragile, on évite de le dire, on attend qu'on voit comment ça évolue. Et je partage, je pense, à une personne, à mon compagnon. C'est la seule personne qui le sait jusqu'à ce que tout soit fixé et terminé. Et je ne partage à personne d'autre parce que je suis dans un contexte où je dois déconstruire en permanence, où je dois rechercher comment je dois faire et comment je dois raconter, dont je partage pas beaucoup, parce que je protège ça, je protège mes histoires, parce que je ne veux pas que mon processus de création soit influencé par quelque chose, parce que je sais que j'ai cette fragilité-là d'être influencé parfois, parce que j'ai une imagination très très débordante. Donc ça veut dire que quand j'entends un mot, quand j'entends une phrase, quand j'entends un retour, ça peut changer ou influencer. Donc du coup, je suis très très réservée, et je parle pas beaucoup de ce que je suis en train d'écrire, parce que je veux éviter ça, je veux protéger la singularité et l'essence de ce que je suis en train de raconter.
Quand il y a un désir, une envie, un besoin de raconter une histoire qui s'est imposée et qu'un projet est sur les rails, est-ce que vous vous fixez un cap ou un objectif? Qu'est-ce qui vous guide dans l'écriture? Est-ce que c'est une sensation que vous voulez pas perdre, ou comment est-ce que vous faites pour ne pas perdre votre chemin?
Oh, ce qui me fait ne pas perdre mon chemin, c'est pourquoi je veux raconter ça et pas autre chose. C'est ce qui me permet d'arriver à un moment où je me dis, c'est ça l'histoire, je peux rien rajouter d'autre. Je reviens toujours au début de cette écriture. Pourquoi ça a commencé? C'était pour raconter quoi? Et voilà, et pour moi, dès que l'intention première de ce qui a motivé ou engendré cette écriture est là, alors je me dis tout est là. je ne vais pas essayer de rajouter des choses pour rajouter. Et c'est ça qui canalise souvent mon processus de création et qui permet aussi de mettre fin à ce processus de création jusqu'au final cut du film. J'arrive à accepter les fragilités ou les manquements si je me dis à un moment il y a l'intention qui a motivé le début de cette création, alors je peux arrêter, je l'accepte. Et c'est ça qui canalise, qui m'empêche de déraper, de divaguer, voilà.
Pour revenir justement sur ces intentions de départ, quelles formes prennent-elles en général pour vous ? Est-ce que c'est un questionnement ou peut-être un personnage, une rencontre ? C'est quoi qui, au début, crée l'étincelle qui va vous lancer dans ce processus ?
C'est très souvent des choses en moi. Je me dis, je ne suis pas là aujourd'hui par hasard à raconter ces histoires et à faire du cinéma. Quand je regarde ma généalogie, je ne suis pas une continuité de ce que mes parents ont été, de ce que mes grands-parents ont été, de ce que mes arrière-grands-parents ont été. Aujourd'hui, je suis cinéaste. Il n'y a pas eu d'autres cinéastes. Il y a eu des conteuses, des chanteuses traditionnelles, mais il n'y a pas eu de cinéaste. Alors je me dis, ça veut dire que aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir raconter tout ce que mon héritage traditionnel et historique n'a jamais pu raconter. Et du coup, je vais chercher ça en moi parce que je sais que c'est pas absolument des choses que je retrouverai dans un livre ou parce que si je prends certains réalisateurs, ils vont peut-être chercher les traces d'une histoire dans des livres, dans des films. Moi, j'ai pas absolument ça. En tout cas, si je prends la région d'où je viens, j'ai pas absolument des traces écrites de mon histoire. Mais j'ai un héritage invisible, très très fort. Et moi, je vais chercher là-dedans. Je suis très très à l'écoute de ce qui me vient. J'essaye de faire le tri entre ce qui émerge d'une situation que j'essaye de vivre à ce moment-là ou des problématiques que je rencontre et ce qui est vraiment enfoui très profondément en moi. Quand ça se passe comme ça, je note. Parfois, il y a des questions sociétales qui me percutent comme jamais avant et ça, je note. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais je note et ça évolue. Je rumine. Et voilà, pour moi, c'est d'abord ça, une foi très forte en ce que j'ai en moi, comme richesse, comme héritage, sans prétention, qui n'est pas connu, qu'on n'a pas eu la possibilité de me transmettre. Et j'ai aussi comme richesse ma famille au Cameroun, qui me nourrit beaucoup, nourrit mon imaginaire. Et voilà, je vais chercher dans ces histoires qui ont fondé la personne que je suis, qui vont nourrir mon écriture, parce que j'estime que si je suis là à raconter ces histoires, c'est pas un hasard, c'est que j'ai mon travail à faire, et c'est ce travail-là, c'est l'écoute de moi, de ce qui est en moi, c'est l'écoute des membres de ma famille encore présents, encore vivants, c'est l'écoute de la réalité autour de moi, et comment cette réalité-là se met en lien avec ce que je suis ou pas. En tout cas, mon travail de création se fonde là.
Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas ? Comment est-ce que vous vous nourrissez ?
Je cuisine beaucoup. C'est une manière pour moi aussi d'éviter d'imaginer, d'éviter d'être dans mon imaginaire, d'arrêter ce fonctionnement où j'arrête pas de penser, d'imaginer. Oui, je cuisine beaucoup et je raconte... Je ne devrais pas dire ça, mais j'invente beaucoup des histoires avec mes enfants. Mais quand je ne suis pas dans c'est vraiment la cuisine. J'essaye de nouvelles recettes, ça me permet de couper. Par exemple, hier, j'ai fait une recette coréenne. La cuisine est pour moi un endroit où je me réfugie et j'essaie d'arrêter mon imaginaire de fonctionner. Oui, la cuisine, je cuisine beaucoup.
Est-ce que parfois vous avez peur d'écrire certaines choses ou de ne plus pouvoir écrire ?
À un moment, j'ai eu peur de plus pouvoir écrire et en même temps, je me suis dit, si je n'arrive plus à écrire, c'est que je ferai autre chose. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses de moi que je n'ai pas encore découvert Et je me dis, si j'arrive plus à écrire, ça veut dire qu'il y aura quelque chose de... qui remplirait ma vie à ce moment-là. Et la deuxième question, je ne sais plus.
Est-ce qu'il y a des choses que vous avez peur d'écrire?
Ah, les choses que j'ai peur d'écrire. Parfois, quand j'écris des textes, il me vient quelque chose. Et quand je relis, je me dis, j'ai l'impression de vouloir me censurer. Après, je me dis, mais non, pourquoi ça m'est venu comme ça? Et je mets ça en lien avec mon héritage invisible. Et si quelqu'un de ma famille n'avait pas pu dire ça, pourquoi je devrais censurer ça? Pourquoi je devrais ne pas dire ça? Et c'est des sentiments, je pense, souvent qui viennent en confrontation avec ce que j'ai envie d'acquérir comme liberté. La liberté de pouvoir dire des choses de moi, la liberté de pouvoir m'affirmer. Et je pense que ce sentiment-là vient en confrontation comme pour stopper ma pensée d'aller au bout de ce qu'elle doit être. Et du coup, je me dis toujours, ce que j'essaie de censurer, c'est ce que je devrais dire. Et ça me permet de prendre l'effort. Dès que j'ai ce sentiment de vouloir me censurer par rapport à quelque chose, je me dis, je dois me forcer à aller au bout, parce que c'est important. Je sais que je vis dans une société autre que l'endroit où j'ai grandi et où je suis, qui me nourrit et qui fait la personne que je suis. Donc, je suis tout le temps en confrontation entre ce que je dois être et ce que la société veut que je sois. Et du coup, à chaque fois que j'écris un mot, je me rappelle la dernière fois, j'écrivais un texte sur la diversité. Ça s'appelle « Je déteste le mot diversité ». Et je me suis rappelé que, je ne sais plus la phrase parce que j'ai plus le texte devant mes yeux, mais je me rappelle, j'avais écrit une phrase, je me suis dit « Oh, wow, c'est violent ça !» Et je me suis dit « Mais pourquoi c'est violent ?» Et là, il y a comme une émotion qui m'a remplie et qui m'a ramenée vers mes ancêtres. Et j'ai pensé à mon arrière-grand-mère qui s'était battue pour pouvoir vivre comme veuve avec ses enfants où elle voulait. Ça m'a ramenée à cet endroit-là. Je me suis dit, mais pourquoi mon imaginaire va là? Ça m'a donné comme la force d'affirmer ce que je venais d'écrire et lui donner toute sa légitimité et toute sa place là aujourd'hui et de pouvoir le dire à haute voix. Et j'ai gardé cette phrase comme elle est sortie de moi. Et je ne l'ai pas arrangée, je ne l'ai pas remodelée, je ne l'ai pas, non. Et voilà, pour moi, quand je ressens une censure de moi-même, j'essaie de chercher d'où elle vient, cette censure. Et parfois j'ai des réponses, parfois pas. Mais pour moi, ce sentiment-là, j'essaie de combattre ça parce que j'estime que ce qui vient de moi est pur. Et quand je sais qu'il est pur, je l'affirme, je maintiens.
J'ai une dernière question pour vous, Rosine. Pourquoi écrivez-vous?
Oh, j'écris pour vivre. J'écris pour déconstruire. J'écris pour décloisonner. J'écris pour me libérer. J'écris pour me réinventer aussi. J'écris pour mes enfants. J'écris parfois pour moi, pour me rappeler la femme que je suis et que je souhaite être. J'écris pour mes ancêtres aussi. J'écris pour ma maman. J'écris pour me confronter. Pour me confronter, j'en ai besoin. Et j'écris pour devenir aussi, pour devenir ce que ma réalité ne me permet pas souvent d'être. Et je crois que c'est tout.
Déjà beaucoup. Merci beaucoup.
Merci à toi. Je ne sais pas si je dois dire toi ou vous. Non.
Merci mille fois à Rosine Bakam de nous avoir livré ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à les liker, les commenter, les partager et leur mettre plein de belles étoiles. Dans le prochain épisode, rendez-vous avec Benoît Mariage.